dernière à Kinshasa de la 4e réunion spécialisée des chefs de police de l'Afrique centrale. Parmi les recommandations, ces responsables de police ont notamment décidé de former les officiers pour lutter contre le terrorisme et l'exploitation sexuelle des mineurs. Un accent particulier a été mis sur la coopération internationale entre les polices des pays de la région. Celle-ci permet à un État de poursuivre un criminel qui s'est réfugié dans un pays voisin. Quel est-il faire de ces recommandations? Nous en parlons avec Madame Colonel Chantal Apendeki, le commissaire supérieur de la police nationale congolaise et officier régional spécialisé en charge de la criminalité et des violences. Elle est également point focal bureau régional et organisation internationale. Bonsoir Colonel Chantal Apendeki.
Bonsoir.
Professeur Jacques Joly, sénateur MLC, vice-président de la Commission Défense et Sécurité au Sénat. Bonsoir, professeur Jacques Joly.
Bonsoir.
Et professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Bonsoir à vous.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Les chefs de police des pays d'Afrique centrale ont réfléchi pendant 3 jours sur les nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité notamment. L'objectif, c'est de permettre que l'action de la police dépasse les frontières nationales pour traquer les criminels. Écoutons le commissaire général de la police qui répond au micro de Michel Kifindangoy.
Aujourd'hui, vous vous rappelez que tous les continents du monde sont l'objet de menaces du terrorisme. L'Afrique n'est pas épargnée. Et quand vous voyez la situation qui se passe dans les pays comme le nord du Nigeria, au Cameroun, au Tchad, c'est des cas avérés de Boko Haram qui constituent un terrorisme. Également, quand vous regardez la situation qui prévaut au grand nord de notre pays, avec les ADF Nalu, qui sont des groupes résiduels de forces négatives, ils opèrent avec la même méthode que le groupe El-Shabaab de Somalie. Et donc, tous les pays qui étaient représentés à la réunion ont pris la mesure de la chose et se sont engagés à pouvoir se constituer comme un bloc pour faire face à cette forme de criminalité. Nous occupons une partie stratégique, la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. Cette coopération internationale nous permet à pouvoir travailler en collaboration avec les autres polices des pays frontaliers pour que nous ayons la facilité de poursuivre un criminel qui a opéré à Kinshasa, qui se réfugie en Ouganda ou en Angola ou en République du Congo en face pour nous permettre de pouvoir les traquer. Et l'une des méthodes qui ont été adoptées dans les comités des chefs de police, c'est l'opération de remise de police à police. Nous sommes en droit de pouvoir demander à la police de Brazzaville de pouvoir retourner les criminels qui ont trouvé refuge à Brazzaville. Et ça s'est fait lors de l'opération de lutte contre le phénomène Kuluna à Kinshasa. Plusieurs criminels ont trouvé refuge à Brazzaville. D'autres ont trouvé refuge en Angola et d'autres sont allés dans des provinces frontalières. Et partout où ils étaient retranchés, toutes ces polices nous ont retourné ces criminels. Et ils ont été déférés devant les juridictions compétentes pour qu'ils soient jugés et subir la rigueur de la loi.
Colonel Chantal Apendeki, je rappelle que vous êtes commissaire supérieur de la police nationale congolaise, officier régional spécialisé en charge de la criminalité et des violences. Vous êtes également point focal bureau régional et organisation internationale. Nous venons de suivre les explications du commissaire général de la police nationale congolaise. Et donc, c'est entre autres les terrorismes qui touchent certains pays en Afrique qui sous-tend la motivation de cette réunion.
Je veux dire que cette réunion qui s'est tenue ici à Kinshasa du 25 au 28 du mois de mars rentre dans les activités du bureau régional Interpol à Yaoundé. Et il s'agit de la 4e réunion que la République démocratique du Congo a accepté d'abriter. Cette réunion avait pour objectif, entre autres, de faire le point sur les formes de criminalité en émergence. Et quand nous citons les criminalités en émergence, il est tout à fait normal qu'on puisse citer d'abord le terrorisme. Cette criminalité prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique centrale. On va parler du Cameroun, on va parler du Tchad, Et si on va plus loin, on va dire aussi que les formes de criminalité de ce genre s'observent de plus en plus à l'est de la RDC. Il était tout à fait normal qu'on puisse en parler.
Oui, parce que vous dites que l'objectif c'était de faire les points des problèmes de criminalité en émergence dans les terrorismes. Colonel, vous ne pensez pas que l'Afrique centrale se réveille en retard, hein? Nous rappelons que c'est depuis plus de 3 ans que des pays tels que le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad, pour ne citer que cela, ont pris la mesure de la chose et se sont mis au travail, et se sont mis à combattre, n'est-ce pas, et le phénomène. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Afrique centrale se réveille en retard?
Je ne pense pas qu'elle se réveille en retard. Nous sommes 8 pays de l'Afrique centrale qui faisons partie du bureau régional Interpol pour l'Afrique centrale. La question a toujours été discutée au sein du bureau. Les mesures ont été prises, mais je crois que cette fois-ci, il y a lieu de mettre les pays qui se sont rassemblés dernièrement, ont pris maintenant des résolutions dans le sens de mettre en place des stratégies de lutte contre ces criminalités qui deviennent de plus en plus grandissantes.
On peut dire que le terrorisme a surpris les pays d'Afrique centrale.
On va dire que c'est une forme de criminalité que l'Afrique centrale ne connaissait pas. Mais il prend de plus en plus de l'ampleur, et puis les pays ne devraient pas croiser les bras.
Colonel Chantal, pouvez-vous faire l'état des lieux de la criminalité dans la région des Grands Lacs?
Je vais parler plutôt dans la région de l'Afrique centrale, parce que le pays, la République démocratique du Congo, compte tenu de sa dimension, elle fait partie de plusieurs organisations. On va parler des APCO, qui est l'organisation des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Il y a le SAPCO, qui est de l'Afrique de l'Ouest, sud-africain. Et puis, il y a EAPCO, j'ai parlé. Et puis, il y a CCPAC, qui concerne le bureau régional. Donc, la RDC fait partie de tous ces pays, de toutes ces organisations, mais nous allons parler plutôt du CCPAC.
Et s'il faut faire l'état des lieux de la criminalité dans cette région, qu'est-ce que vous diriez?
Nous avons parlé plutôt des criminalités en émergence, les formes des criminalités de violence en émergence. On s'est rendu compte qu'il y en a celles qui sont de plus en plus émergentes, notamment la piraterie maritime, le coupeur de route, les enlèvements avec demande de rançon, les braquages de banques et j'en passe. Voilà, on a essayé de discuter autour de ces criminalités-là.
Alors, pour faire face à ce type de criminalité, vous envisagez de former les officiers de la police. Cette formation consiste en quoi concrètement?
Généralement, Interpol donne des formations de qualité. Notamment, il est demandé aux pays de pouvoir déterminer leurs besoins. Et actuellement, il est plus qu'impérieux que le policier puisse être formé plutôt dans le domaine de la criminalité et entrer au terrorisme, la cybercriminalité aussi. Voilà pourquoi les pays ont pris des résolutions. Ils ont demandé au secrétariat général, via le bureau régional, de pouvoir former les policiers de la région en la matière.
Colonel, parce que vous qualifiez cela des nouvelles formes de criminalité, dans la stratégie que vous mettez en place pour lutter contre cette nouvelle forme de criminalité, avez-vous prévu de réfléchir sur un cadre juridique qui puisse s'adapter à cette nouvelle menace?
Bien sûr que oui. Il existe déjà un cadre qui permet aux pays, par exemple, le commissaire général venait de parler de la remise de police à police. Ce cadre existe qui permet aux pays de l'Afrique centrale de pouvoir collaborer les policiers de Kinshasa ou alors de la RDC, pouvoir poursuivre pour des criminalités transfrontalières. Mais maintenant, on veut élargir en allant vers l'Afrique de l'Ouest et je crois que ce genre de traités pourront permettre de poursuivre les criminels là où ils se déplacent parce qu'ils sont très mouvants.
Colonel Chantal, le commissaire général de la police nationale congolaise a affirmé ceci, je cite, « Cette coopération internationale nous permet de travailler avec les autres polices des pays frontaliers pour que nous ayons la facilité de poursuivre un criminel qui a opéré à Kinshasa et qui s'est réfugié dans un pays voisin. » Fin de citation. Et vous ne pensez pas qu'il y a... Parce qu'on se rappelle qu'il y a un précédent, n'est-ce pas, dans la région. On se rappelle les cas Laurent Kunda, les cas Faustin Mounené, le général Faustin Mounené, dont la RDC a toujours réclamé, n'est-ce pas, en vain l'extradition. Et vous pensez que dans la faisabilité, les choses vont être pratiquées sans problème? Parce qu'on sait que dans les cas de Laurent Kunda et dans les cas de Faustin Mounené, on n'a jamais obtenu leur extradition. Et vous pensez que cette fois-ci, les pays vont accepter de coopérer et d'extrader les gens qui vont aller se réfugier chez eux, les criminels?
Les pays sont de plus en plus d'accord pour procéder à ces remises de police à police. Nous venions de suivre dernièrement, il y a une remise qui a été faite avec le Rwanda. Le BCN, lors de la réunion dernière, nous avait part de beaucoup de remises qui se font entre nos pays de l'Afrique centrale. Je suis très très positif, je crois que les pays vont adhérer, que ça nous rapporte encore plus dans la lutte contre les criminels.
Alors, lorsque vous parlez des remises avec le Rwanda, vous faites allusion à quoi? Lorsqu'on a remis l'ex-commandant FDLR au Rwanda?
Par exemple, ça ne cadre pas trop avec la police, mais je crois que dans le domaine de la police, ça marche plus.
Professeur Jacques Joly, je rappelle que vous êtes sénateur MLC, vice-président de la Commission Défense et Sécurité au Sénat. Comment vous analysez cette initiative des différentes polices des pays des Grands Lacs?
Mais je salue d'abord la présence du colonel Apendeki, qui coordonne, n'est-ce pas, au niveau de la police nationale congolaise, toute la problématique, n'est-ce pas, de cette criminalité émergente. Oui, aujourd'hui, les crimes n'est plus un phénomène étatique, c'est un phénomène mondialisé, globalisé. Ça se trouve à la confluence des États et surtout dans nos pays africains où il y a la porosité des frontières, donc la criminalité n'a plus de frontières. Mais au-delà de cette criminalité, il y a d'abord le phénomène du terrorisme lui-même qui est devenu mondialisé. Lorsque vous remarquez l'ensemble de groupes qui opèrent, n'est-ce pas, dans le monde, que ce soit Al-Qaïda, ACMI, Boko Haram ou El-Shabaab, ces groupes opèrent dans le maille de frontières. Il suffit de voir que ceux qui opèrent au Kenya ou en Tanzanie viennent de la Somalie, cela passe par ACPA au Yémen. Donc il y a une mondialisation. Et face à cette mondialisation de la criminalité du terrorisme, il faut une riposte aussi mondialisée et régionalisée. Et je crois que dans ces cadres-là que nous pouvons comprendre toutes ces rencontres policières. Mais pour nous, s'il est important que nous puissions combattre la criminalité, cette lutte doit aussi s'opérer dans le respect de règles de droit. Vous avez posé des questions très intéressantes au colonel. La problématique, par exemple, des remises des polices en police. Cette problématique doit être encadrée. En Europe, heureusement, il y a ce qu'on appelle le mandat d'arrêt européen qui permet, n'est-ce pas, non pas seulement à la police, mais à l'ensemble du système judiciaire. Parce que le policier, c'est un homme de terrain, mais il faut que son action soit encadrée.
Voilà, nous rappelons le cas d'Abdeslam qui a été remis par la Belgique à la
Belgique, récemment. Mais au départ, la Belgique a fait d'abord son travail et le deux parquets, le parquet contre la criminalité et le terrorisme à Paris, fait une demande d'extradition. Ce qui nous amène à dire qu'il faut qu'il y ait des cadres juridiques, des accords entre États. Sinon, il y a danger de glissement. Et que les États, compte tenu de la politisation de nos polices, se remettent leurs opposants ou leurs cas. Ça, c'est la première problématique. Donc, un, il faut un cadre juridique approprié. Et deux, au niveau de l'État lui-même, c'est vrai que la criminalité internationale n'épargne aucun continent, mais la question du développement de cette criminalité, c'est encore une fois la faiblesse de l'État. Nos États n'ont pas suffisamment de moyens pour contrôler leurs frontières. Et ce que chez nous on appelle la problématique de la restauration de l'autorité de l'État, c'est une question grave, importante. qui, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est à la base de la criminalité et de la problématique du terrorisme au nom de notre pays? Ce sont essentiellement des groupes armés étrangers. Vous avez la Defnalu, les Congolais qui souffrent à Beni, à Butembo, et qui font face à cette criminalité, mais c'est un groupe d'origine étrangère ougandaise. Les FDLR, ce sont des groupes qui n'ont pas d'intérêt direct avec le Congolais.
La LRA.
La LRA. Et la LRA opère, et comme hier, c'était les autres groupes qui étaient là, c'est-à-dire opère dans un espace où il y a une faiblesse de l'autorité de l'État, où il y a une faiblesse de la présence policière et militaire, il y a une faiblesse de l'autorité administrative. Donc, il faut une approche globale qui intègre la dimension internationale, encadrée par deux accords entre de coopération policière et judiciaire, pour qu'on n'arrive pas à une sorte de remise de rançon ou de règlement entre policiers. Vous avez soulevé le cas de Munene ou du cas de Laura Kunda. C'est bien de remettre aux Rwandais un criminel de l'FDLR. Mais ici, la règle générale, c'est la réciprocité. Depuis que nous avons commencé à réclamer les Jules Moutéboussi, les Laurent Kunda, on n'a jamais remis, et le Rwanda n'a jamais accepté l'accord d'extradition que nous avons signé. Pourquoi nous remettons et le Rwanda ne nous remet pas? Donc, il y a des problèmes au niveau international, mais au niveau de l'État. De l'État d'abord, qui doit exister, parce que la cause de la criminalité et du développement du terrorisme, c'est la faiblesse de l'État. Et il faut que nous puissions avoir un État efficient, un État efficace, mais un État de droit. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau de discussion.
Merci, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Comment analysez-vous les recommandations qui découlent, n'est-ce pas, de cette réunion des polices des pays de la région des Grands Lacs?
Merci pour l'invitation pour participer à ce débat ô combien important et qui ne concerne pas uniquement la RDC et qui touche une problématique tout à fait internationale, et que la RDC a pris la mesure du danger que très récemment. Et donc il faut bien se rendre compte que les deux problématiques qui ont été à l'ordre du jour de ce forum, notamment la problématique du terrorisme et la problématique des violences sexuelles faites aux enfants, qui sont deux problématiques tout à fait différentes, mais qui peuvent dans certaines conditions se rejoindre. Et donc il faut dans un premier temps, je pense, ne pas seulement mettre l'accent sur les questions de répression, mais qu'il est important de pouvoir mettre aussi l'accent sur la prévention. Alors, quand on parle de la prévention, il faut aussi se rendre bien compte du contexte dans lequel ce mouvement et ces différentes tendances apparaissent. Donc si on regarde effectivement, on lit un petit peu ce qui se passe depuis plusieurs années dans d'autres pays par rapport à la question du terrorisme, en fait il y a quand même plusieurs conditions qui interviennent, qui font en sorte que le terreau devient fertile pour les terrorismes. Il y a dans un premier temps ce qu'on pourrait appeler les conditions sociales dans lesquelles vivent les gens. Ensuite, vous avez les conditions économiques et aussi les conditions culturelles. Et à partir de ces conditions, vous allez se rendre compte que ces conditions touchent essentiellement une population jeune. Et en plus, cette population jeune, dans la plupart des cas, souffre d'une certaine forme d'humiliation à différents points de vue. Et de ce fait, faire en sorte que ces jeunes qui veulent se révolter, dus dans ce contexte avec des conditions spécifiques sociales, économiques et culturelles, vont dans une forme de violence pour pouvoir revendiquer toute une série de droits auxquels ils n'ont pas à accès. Et donc c'est ça qui fait un premier socle, on va dire, du terreau du terrorisme. On a un deuxième socle qui est celui de l'absence donc de l'État, Lorsque l'autorité étatique effectivement est absente dans un lieu où on a déjà ces conditions-là, on a les probabilités de pouvoir effectivement avoir une plus grande capacité, une possibilité d'implantation de ces mouvements et de ces pouvoirs se développer assez facilement. Et pour ça, il faut voir aussi, par exemple, le cas du Boko Haram. Parce qu'on a beaucoup étudié le cas du Boko Haram et du Kouboko, on s'est rendu compte que ces différents mouvements sont en fait ancrés dans les structures sociale de la société. Et donc, de ce point de vue-là, ça devient difficile de dire oui, ce n'est que des mouvements rebelles, oui, ce n'est que des groupes armés. Non, on se rend bien compte que des fois, ces mouvements tirent leur force dans le terreau et dans les conditions que je viens d'évoquer. Et alors, la particularité par rapport à la RDC, c'est qu'il ne faut pas oublier par rapport à la RDC, c'est que la RDC a aussi connu d'autres phénomènes qu'on a appelés pendant tout un temps, le phénomène d'enfants soldats. Souvenez-vous, à l'époque d'enfants soldats, où on a eu toute une glorification, il y a eu une campagne de mise en valeur de ces enfants et qui devenaient des enfants soldats auxquels, comme vous le savez, les droits des enfants spécifient clairement qu'il est hors de question de pouvoir engager des enfants dans des guerres ou dans des luttes armées. Mais on a eu au Congo pendant un certain temps une glorification de ce phénomène d'enfants soldats. Et alors la crainte que l'on peut avoir en ayant ces terreaux où on a eu ce phénomène de glorification d'enfants soldats par rapport aussi au contexte que je viens d'évoquer, on peut arriver à avoir un terroir tout à fait fertile pour les mouvements terroristes tels que l'on connaît, comme l'a dit le général, dans le Grand Nord, et aussi les différents. Il n'y a pas d'action contre ce que j'ai évoqué. Nous aurons en RDC, nous allons connaître des mouvements terroristes, nous allons connaître une nouvelle forme de criminalité qui est déjà connue dans notre pays, et malheureusement, on aura l'impression que le Congo n'est pas suffisamment outillé. Je voudrais juste encore une fois, si vous permettez, que je puisse ajouter juste un dernier élément dont a parlé le colonel, quelque chose qui a fait toujours une pratique du problème de la RDC. Mon colonel a donné toute une série d'organisations dans lesquelles la RDC est appliquée dans le cadre de la lutte. Encore une fois, on se rend bien compte que la RDC, de par sa position géographique, la RDC a plusieurs outils. D'une part, elle est dans son tropisme au sud, ça veut dire avec la SADC. D'autre part, elle est dans son tropisme en Afrique centrale avec la CRC. Et par ailleurs aussi, elle est dans son tropisme à l'est avec CPGL, etc., CIRGL, etc. Et maintenant, on est en train de voir qu'il y a un nouveau tropisme qui est en train de se passer et qui concerne beaucoup plus le nord et qui monte vers le Soudan, etc. Là aussi, on voit qu'il y a, de mon point de vue, il y a encore là une dispersion des moyens et des capacités à pouvoir arriver à bien maîtriser le phénomène. J'imagine que dans tout ça, la police doit avoir quatre points focaux en fonction de ces différentes organisations. Est-ce qu'il y a une coordination entre ces différentes organisations? Est-ce qu'il y a une harmonisation de textes juridiques entre ces différentes organisations?
Professeur, je ne le pense pas. Professeur, vous êtes en Belgique, un pays qui a récemment été affecté par les attentats terroristes. Est-ce que vous pouvez partager l'expérience de ces pays en ce qui concerne l'extradition des personnes recherchées? Nous l'avons évoqué avec le professeur Jacques Jolie, c'est le cas d'Abdesalam la Belgique a livré récemment à la France. Est-ce qu'une telle coopération est-elle possible en Afrique centrale?
Le problème, c'est qu'il y a les textes existent. Vous savez que les textes existent pour pouvoir permettre toutes sortes d'intraditions et par rapport à des gens qui sont recherchés par la justice d'une des pays. Il y a des conventions qui sont signées depuis les années 60, 70, 80, 90 et qui sont renouvelées chaque fois entre les différents pays et qui sont ratifiées par les différents parlements. Mais là, le problème qu'il y a toujours dans ce genre de cas, c'est toujours la problématique politique. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez suffisamment de pression, de possibilités de pression politique pour obtenir la livraison ou l'arrestation de telle ou l'extradition de telle ou telle personne qui est recherchée par le pays voisin. C'est là tout le problème qu'il y a. C'est là tout le débat qu'il y a, malheureusement, pour lequel il y a tellement de textes et qu'il y a tellement de choses qui se font pour lesquelles il n'y a pas d'application. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez cet exemple-là, l'exemple de la France et de la Belgique, il est clair que cette extradition se fait sur base de textes, sur base de traités, sur base de ce qui a été étudié dans le cadre de l'Europol, Europol, etc., dans lequel où on a la définition de ces différents éléments, comment on va les mettre en œuvre.
Merci, professeur.
Si un pays, bien sûr, n'est pas en œuvre ces différents textes, ben, il y a des juridictions sur lesquelles où on peut aller pour aller réclamer au niveau, donc au-dessus de pays, comme au niveau de la Cour européenne, pour pouvoir arriver à...
Merci, professeur. Je vous redonne la parole. Colonel Chantal Apendeki, il y a une réflexion qui est émise pour vous, qui vient des Bounia.
Je vous appelle à partir de Bounia, dans la province de l'Ituri.
C'est-il bonne affaire que la coopération puisse être établie entre les différentes polices de l'Afrique centrale avec même le droit de suite dans les pays membres? Mais le danger est que dans presque tous ces pays, les opposants et les manifestants sont considérés soit comme des terroristes ou assimilés comme tels.
Oui, madame, votre réaction?
Je vais dire que cette coopération entre les pays, entre les polices des pays de l'Afrique centrale ne peut pas mettre fin à la poursuite judiciaire. C'est-à-dire, je ne peux pas reprendre que les opposants ou les autres sont considérés comme des criminels, je ne sais pas. Nous, c'est la police fait son travail. Quand il y a une demande d'un pays ami ou alors d'un pays membre du CCPAC, la police fait tout ce qui est à son pouvoir, c'est-à-dire va entendre la personne, il va poser les actes judiciaires que lui demande la loi, et puis il va laisser la personne à la disposition de son pays pour les poursuites judiciaires.
Mais vous pensez que nos pays de la région de l'Afrique centrale sont prêts, n'est-ce pas, à faire une distinction entre un terroriste qui commet des actes répréhensibles et un activiste des droits de l'homme qui est en train de jouir de son droit d'expression ou un acteur politique qui est en train de jouir de son droit de manifester pacifiquement? Vous pensez qu'il y a cette possibilité-là de faire la distinction entre les deux catégories?
Mais déjà, c'est le modus operandi qui fait la différence entre, je crois, quelqu'un qui revendique ses droits et quelqu'un qui pose les actes criminels, les actes terroristes. En plus, ce n'est pas au pays de dire qu'un acte est terroriste. Je crois que c'est aux Nations Unies de déclarer un groupe ou un groupe terroriste. Bon, déjà, ça, c'est une autre paire de manches. Mais pour ce qui concerne la police fait sa part et doit envoyer le dossier au parquet. Je ne crois pas que la police peut faire l'amalgame entre un terroriste et un citoyen qui revendique ses droits. Ça, je ne vois pas de lien.
Vous avez suivi professeur Jacques Joly qui a estimé que c'est un problème mondial qui nécessite des réponses mondiales, et il a évoqué, n'est-ce pas, les cadres juridiques et les accords entre les États qui doit exister, et il a parlé aussi de la faiblesse de l'État qui est l'un des facteurs, n'est-ce pas, qui favorise cette criminalité. Il y a aussi le professeur Bob Kabamba qui a estimé qu'il faut mettre l'accent sur et la prévention et la répression et par rapport aux conditions, n'est-ce pas, qui favorisent ces phénomènes. Il a parlé des problèmes sociaux, des problèmes culturels. Et comment vous réagissez par rapport à ça quand vous voyez ce qui se passe dans les pays africains et plus particulièrement les pays d'Afrique centrale?
Par exemple, que la RDC reçu ses assises dans son pays, c'est un grand signal pour nous, au bureau régional d'Interpol. Nous voyons que de plus en plus les pays se regroupent. Nous parlons aujourd'hui du CCPAC pour ce qui est de l'Afrique centrale. Nous parlons des APCO pour ce qui est de la police de l'Afrique de l'Est. Nous parlons des SAPCO, l'Afrique australe. Pour moi, je crois que les États sont en train de prendre conscience et de se mettre ensemble pour combattre la criminalité.
Alors, en ce qui concerne notre pays, vous ne pensez pas qu'on mettrait beaucoup plus d'accent sur la prévention, c'est-à-dire en combattant d'abord, en amont, les causes qui sont à la base de cette criminalité, cette nouvelle forme de criminalité,
oui.
Notamment les causes sociales et culturelles?
Pour ce qui est de la police, il y a maintenant trois coordination, notamment la coordination police administrative, il y a la coordination police judiciaire et la coordination appui et gestion. La police administrative, elle est préventive et l'accent est mis plus sur la prévention que la répression. Mais je crois de plus en plus avec la réforme de la police nationale congolaise, les choses sont en train de s'éclaircir de plus en plus.
Professeur Jacques Joly, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Athanase Ilunga de Kikananga dans la province du Kasaï central. Par rapport à toutes ces recommandations, je trouve qu'elles sont bonnes et surtout qu'elles mettent l'accent sur la coopération internationale en matière de poursuites judiciaires. C'est bien, ces recommandations, il faut se que ce sont des recommandations faites au niveau international. Nous savons tous que le droit international, c'est un droit de coordination. Ça signifie que chaque État tient mordicus à sa souveraineté. Mais tout simplement, ces recommandations sont en quelque sorte des orientations dont l'inobservation n'entraîne pas une sanction dans les chefs de l'État.
Professeur, n'est-ce pas un problème ? Dès lors que la sanction n'est pas prévue pour des pays qui ne vont pas s'adapter, plutôt se conformer à toutes ces recommandations.
D'abord, il faudra se dire que la sécurité est la première mission de tout État. Et cette mission de tout État se retrouve maintenant dans cet espace que lui-même a appelé de coordination. Ce qui est important pour qu'on arrive à l'impérativité, à l'opposabilité aux États, c'est que ces accords entre, la commissaire a dit, de SAPCO ou les services police au niveau de l'Afrique centrale ou autre, trouvent un cadre juridique conforme à la Constitution. C'est-à-dire les accords techniques, surtout en matière de droits de l'homme, parce qu'il s'agit ici des atteintes aux droits de l'homme, à l'intégrité physique, à la dignité des hommes, puisse avoir un cadre formel et que ça passe devant le Parlement. À partir de ce moment-là, ces accords prennent corps, prennent forme et s'imposent au-delà de la souveraineté de chaque État. La souveraineté s'étant exprimée par l'accord formel conforme aux droits de chaque État. Donc, l'impératif de coopération, comme nous a dit, c'est incontournable. Aujourd'hui, les ADF Nanou, ce sont les anciens tabliques qui se livrent maintenant à des pillages, à des commerces illicites, et leur mouvement s'étend à travers l'ensemble de l'Est. Ils opèrent en Ouganda, ils opèrent, n'est-ce pas, au Soudan, ils sont alimentés par le Shebab, qui peuvent quitter le Congo pour aller vers le Kenya. Vous avez suivi la dernière arrestation des responsables des ADF Nanou. Il a été arrêté, n'est-ce pas, à Nairobi. Ils opèrent à Nairobi en passant par la Tanzanie. Et ces mouvements sont ravitaillés par des sources financières qui viennent de certains réseaux salafistes, n'est-ce pas, d'Arabie. Donc, il est important que l'action des États ne soit pas limitée à cause, n'est-ce pas, de petitesse de nos souverainetés. Mais au-delà de cela, il y a un outil de coopération. C'est les accords conformes à la Constitution. Sinon, les dangers que nous avons évoqués, de voir les dérives de certaines polices et les dérives de certains régimes, s'est transformé, n'est-ce pas, à des atteintes aux droits de l'homme. Vous avez cité les cas de Koum des autres, mais vous vous rappelez que dernièrement, un journaliste qui avait fui le Burundi où il y a de répression, qui a été arrêté comme un vulgaire voleur à Uvira, et on l'a remis aux autorités burundaises. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui quelles sont les garanties en matière d'intégrité physique de cet homme-là? C'est tout ces précautions qu'ils promettent. Les accords s'imposent, comme on dit, pacta sunt servanda, mais au-delà de cela, il faut qu'il y ait une vision commune dans la coopération.
Oui, il y a des experts qui estiment que la meilleure façon de faire face à cette nouvelle forme de criminalité, c'est d'augmenter de façon significative les budgets affectés à la défense nationale.
Oui, la question de financement ou de budget de nos armées, de nos polices, ce sont des questions fondamentales. Si vous prenez notre pays avec un budget de 5 millions ou 5 milliards de dollars, si on donne à l'armée, à l'ensemble des services de sécurité, moins de 10%, s'il faut habiller les militaires, s'il faut habiller les policiers, s'il faut les payer, s'il faut les caserner, s'il faut les nourrir, nous nous trouvons dans une situation d'une armée sous-payée et d'une police en guenilles. D'où l'intérêt de la coopération, non pas seulement entre les polices africaines pour mutualiser les efforts, mais aussi le moyen de capitaliser, de canaliser les apports internationaux. Même un pays comme la Turquie, pour lutter contre la criminalité, pour lutter contre l'immigration clandestine, reçoit des milliards, n'est-ce pas, des pays de l'Europe. Et il est important que nous puissions entrer dans ces cadres-là. C'est pourquoi nous avons toujours salué les efforts dans le cadre de l'EPOL ou de l'ESSEC. Mais il faut aller au-delà de cela pour arriver à être une police démocratique. Merci. Et mériter encore davantage des apports de la communauté internationale.
Professeur Bokwamba, il y a une réflexion émise pour vous. Elle vient de Mbandaka.
J'ignore Bompongo de Mbandaka. Comme toute idée alla dans le bon sens, surtout qu'aucune action infractionnée reste impunie, il ne faut s'en passer à relever les ambiguïtés dialectiques qui existent dans les rapports police-citoyens dans la sous-région, car les discrédits et les différentes plaintes de la population peuvent traduire toute réserve des citoyens de la région vis-à-vis de la police, et cette méfiance peut être de nature à éloigner les actions collectives des différentes polices dans la sous-région. La coopération étant l'antithèse des conflits, selon l'entendement de Pierre François Gonidec, les États de la sous-région devront revisiter les règles d'extradition, car ils se posent avec acuité la dialectique entre la protection diplomatique et la poursuite judiciaire dans les relations entre les États.
Bokwamba, vous avez dit que les textes existent. Merci.
Oui, tout à fait. Les textes existent depuis plusieurs années et ont été signés. Donc, il y a même des traités qui sont ratifiés par les autres et qui précisent bien les conditions dans lesquelles les extraditions doivent se passer et les obligations qui sont liées aux différents États. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est l'application de ces différents textes. Et vous devez savoir, par exemple, que les pays des Grands Lacs ont signé les textes pour éviter qu'aucun pays ne peut soutenir un groupe rebelle contre un autre pays. Malheureusement, comme vous le savez, dans la région, les groupes rebelles pullulent dans les différents pays et qui sont en lutte contre leur pays d'origine. Et donc tout ça fait en sorte que ces différents textes existent, et on n'a pas l'impression que ces textes sont mis en application. Et il y va effectivement d'une volonté politique claire qui doit être de plus en plus affirmée. Mais je pense que le fait que c'est une toute nouvelle criminalité qui apparaît au grand jour depuis maintenant plusieurs années, je pense que va amener maintenant ces différents États à pouvoir arriver à bien comprendre ce fait, non seulement bien le comprendre, mais aussi mettre en application les textes. Comme on l'a dit tantôt par le collègue Joly, est-ce que vous avez des criminels, par exemple, qui quittent un pays et qui vont commettre des exactions dans d'autres pays, ou des terroristes qui quittent un pays pour aller commettre des actions dans un autre pays, le pays en question sera toujours maintenant amené à pouvoir revendiquer l'extradition. Et revendiquer l'extradition va de plus en plus pousser les États, je le pense, à une meilleure coopération. Par ailleurs, il faut aussi bien se dire que des fois, ce sont les nécessités, les faits, les événements qui surviennent qui amène effectivement à ce que l'on arrive à avoir l'application des textes. Le Rwanda n'applique pas de textes. Pourquoi ? Parce que simplement, actuellement, le Rwanda pense ne pas avoir besoin d'appliquer les textes qui lui sont soumis. Mais lorsque le Rwanda sera dans des conditions telles qu'il va commencer à demander, par exemple, l'extradition de tel ou tel, là, le Congo va commencer aussi à poser des conditions. Et là, je pense qu'effectivement, on va arriver à avoir de plus en plus l'application du texte. Donc les événements actuels amenés, je suis sûr et certain, à un renforcement de coopération entre les différents pays, un renforcement de coopération, mais aussi l'application de ce texte qui existe.
Oui, et un autre aspect qu'a soulevé cet auditeur de Mbandaka, c'est les rapports entre la police et la population, et qui ne sont pas toujours bons, oui, dans nos pays des Grands Lacs, l'Afrique centrale.
Oui, je pense que c'est lié vraiment à l'état actuel de la police qui n'arrive pas à apporter les garanties par rapport à la population, qui n'arrive pas à assurer la population. Même si je pense que de plus en plus des efforts sont faits pour qu'il puisse y avoir amélioration. Parce que vous savez très bien que dans l'imaginaire collectif congolais, un policier n'est pas source de sécurité, le policier est source d'insécurité. Alors dès que vous fonctionnez dans un tel système, vous en doutez bien que je donne raison à l'auditeur qui pense que, effectivement, lorsque l'on est dans ce contexte là, le policier n'est pas nécessairement n'assure pas le sentiment de sécurité. Mais je pense que de plus en plus, et on le voit de plus en plus dans beaucoup de rapports, notamment j'ai lu les rapports des Nations Unies ont marqué, ont clairement dit que la RDC avait fait quand même beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer non seulement la formation des policiers, mais aussi le traitement et l'encadrement de ces policiers. Notamment, je fais référence au rapport du traité général des Nations Unies, qui a même dit que les taux d'exaction des policiers vis-à-vis de la population civile ont diminué de plus de 70%.
Madame colonel Chantal Apendeki, par rapport aux relations, n'est-ce pas, entre la police et la population, comment vous entrevoyez l'aboutissement d'une telle lutte lorsqu'on sait que entre la population et la police, il existe une sorte de méfiance dans nos pays?
Je suis en train, moi, de saluer les avances comprises. Nos pays, surtout la République démocratique du Congo, quand je vois la police de proximité, les efforts, je vois comment la population est instruite du jour au jour sur le fonctionnement de la police qui commence de plus en plus à comprendre son rôle. Moi, je crois que c'est plutôt je crois que c'est de bonnes lois, je crois que la police est en train d'évoluer. On doit comprendre que nous venons d'une police qui était en soi, je vais dire, une mosaïque. Et actuellement, les choses s'éclaircissent avec la réforme. Les unités sont créées, les rôles sont joués, la formation de plus en plus, elle est bonne. Et puis, je crois, donnons à notre police la chance. Les choses pourront aller plutôt dans le bon sens.
Colonel Chantal, vous avez suivi le professeur Jacques Doly qui dit que la meilleure façon, n'est-ce pas, de faire face à cette nouvelle forme de criminalité, c'est d'augmenter de façon significative les budgets affectés à la défense nationale.
Je crois qu'il a raison. Il y a un principe qui dit mission égale moyen. Mais bon, nous connaissons le problème aussi de notre pays. Je crois que nos autorités sont conscientes de ces choses et que de plus en plus, ils pourront donner mieux à la police pour qu'elle soit à la hauteur de sa mission.
Vous, policiers, qu'est-ce que vous attendez de la part des parlementaires des pays, des GALAC?
Je crois les policiers font partie de la population de nos pays. Et s'ils sont au Parlement, c'est-à-dire ils sont pour aussi les policiers, ils devront tenir compte des questions de leur vie et de leur bien-être en général.
Pour ce Jacques Joly, quel pourrait être l'apport, n'est-ce pas, des parlementaires des pays de Gdanlak dans l'aboutissement de cette lutte contre cette nouvelle forme de criminalité?
Et d'abord, je voudrais vous rassurer qu'au niveau du parlementaire, il y a une grande coopération sur cette question. Moi-même, je viens d'assister à un colloque à Abidjan, malheureusement une semaine avant des actes terroristes qui s'y sont passés au Grand Bassam. Nous avons dû souligner la porosité de nos frontières et la nécessité, n'est-ce pas, de mettre en place une coordination, une mutualisation de moyens, des instruments juridiques. Mais nous sommes aussi tombés d'accord, et c'est ce qu'a dit le professeur Kababaya, que l'Afrique, à cause de la mauvaise gouvernance, présente un terreau facile de recrutement de jeunes. Si vous voyez le profil de ces terroristes, c'est essentiellement de jeunes désœuvrés.
Et donc, il faut améliorer la gouvernance.
Il faut améliorer la gouvernance. Et lorsque, par exemple, le Parlement vote des lois de réforme, notamment de la police, et que nous votons une loi de programmation budgétaire, nous demandons à l'exécutif d'exécuter cette loi de programmation. Merci. Et ce qui concerne l'armée, jusqu'à présent, nous demandons une loi de programmation pour qu'on puisse voir comment les moyens sont mis en place, comment les hommes sont formés. Malheureusement, nous ne sentons pas une volonté réelle de ce côté.
Merci, professeur. J'ai considéré ça comme votre conclusion. Professeur Bokabamba, votre conclusion?
Oui, j'insisterai vraiment pour ce qui concerne donc la prévention. Mais ne prenez pas la problématique uniquement dans l'angle de la répression. Il est important de veiller une prévention, de pouvoir anticiper les différentes problématiques, de travailler en amont avec les populations civiles et avec la population. Je pense qu'on pourrait certainement arriver à avoir de meilleurs résultats.
Merci.
Et surtout protéger les populations et endiguer les violations que l'on constate depuis plusieurs années.
Merci, professeur colonel Chantal Apendeki, votre conclusion en un mot.
En un mot, nous saluons la réunion qui venait de se tenir ici chez nous et nous demandons aux policiers de pouvoir consulter les bases de données et de les alimenter afin de combattre réellement la criminalité transfrontalière.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Diakala qui était à la technique. Merci à Alain Hirong et Kelinkou de qui m'ont aidé à préparer cette émission. Sous la supervision de Julien Nyamouni, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.